Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Dans cette édition, nous irons notamment en Angola et au Soudan pour nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est en Afrique. Quant à l'actualité sociopolitique, elle nous conduira entre autres en Tanzanie, en République démocratique du Congo et au Bénin. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique. Donatien Niembo.
Still I Rise, une organisation italienne à but non lucratif, a lancé une initiative pour éduquer les enfants mineurs en République démocratique du Congo. Cette initiative voudrait assurer l'éducation, la protection et la dignité des derniers, selon les termes de ses bénévoles. Nous croyons au pouvoir transformateur de l'éducation, disent-ils. Nous apportons l'éducation aux enfants réfugiés, orphelins et apatrides dont les droits ont été niés pendant longtemps. Dans ce grand pays d'Afrique centrale, 3,5 millions d'enfants ont abandonné l'école primaire, tandis que 43% d'entre eux souffrent de malnutrition. Et au Katanga, où un enfant sur 5 ne dépasse pas l'âge de 5 ans, il y a le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde, rappelle l'association qui délivrera des diplômes de baccalauréat international permettant aux élèves de s'inscrire à l'avenir dans des universités du monde entier. Les pèlerinages de la croix des JMJ et de l'icône de la Vierge Salus Populi Romani en Angola se poursuit. Les deux symboles des JMJ sont arrivés dans le pays africain le 8 juillet et cette semaine, ils ont atteint l'archidiocèse de Wambo après avoir fait escale dans la capitale Luanda et dans les diocèses de Sumbe et Benguela. Le 19 juillet, rapporte le site des JMJ de Lisbonne, ils ont été accueillis par une paroisse de la périphérie de la ville de Lobito dans le diocèse de Benguela avant de partir pour Wambo. La participation et l'enthousiasme ont été grands parmi les jeunes qui ont écouté une méditation sur l'essence de la croix et l'importance de la prière et de la fidélité à l'évangile et ont participé à la messe au cours de laquelle ont été rappelés l'héritage de Saint Jean-Paul II et l'histoire des JMJ. Ce voyage en Angola se poursuivra jusqu'au 15 août, date à laquelle la croix et l'icône rejoindront l'Espagne au site de JMJ de 2011, puis la Pologne qui a accueilli l'événement en 2016, enfin le Portugal. C'est là qu'ils commenceront en novembre leur tournée de 21 diocèses du Portugal, en commençant par le diocèse d'Algarve et en terminant en juillet 2023 au Patriarcat de Lisbonne. Le pèlerinage des deux symboles de JMJ est l'un des temps forts de préparatifs dans le pays hôte. La croix et l'icône sont transportées d'un diocèse à l'autre, atteignant les églises, les prisons, les écoles et les hôpitaux où sont organisés des moments d'adoration, des processions et des veillées. Rappelons que les JMJ de Lisbonne étaient initialement prévus en 2022, 3 ans après la précédente édition qui s'était tenue au Panama, mais qu'elles ont été reportées à 2023 en raison de la pandémie de COVID-19. La violence en cours dans la région nord de l'Éthiopie qui s'étendrait à d'autres régions de la Corne de l'Afrique est une source d'inquiétude pour la conférence épiscopale du pays qui appelle à la fin de la violence. Cela attriste nos cœurs d'entendre parler de guerre alors que nous aimerions tous entendre parler de paix et de réconciliation, déclarent les membres de la conférence des évêques d'Éthiopie dans leur message collectif du mercredi dernier. En tant que pasteur, nous ne pouvons que ressentir l'angoisse et la douleur qui traverse la population, ajoute-t-il en référence au violent conflit qui s'étend au-delà de la région du Tigré. Je n'ai aucun doute sur le fait que je veux retourner dans mon Sud-Soudan. Le peuple m'attend et au-delà de nombreux problèmes, il y a aussi un grand espoir et je veux en faire partie. C'est ce qu'a déclaré Mgr Christian Karl Assaré, évêque nommé de Rumbek. La violente agression dont il a été victime dans la nuit du 25 au 26 avril dernier a laissé des traces profondes sur son corps et son âme, mais elle ne semble pas avoir affaibli l'enthousiasme du pasteur et l'amour pour son pays de mission. trois mois après le tragique événement, alors qu'il est en voie de réhabilitation complète après un long traitement, l'évêque évoque les espoirs et les attentes d'un peuple qui célèbre ce jour-ci le 10e anniversaire de son indépendance, mais qui est encore loin du rêve d'une démocratie complète et pacifique. C'était un moment très dramatique. J'ai dû me confier au Seigneur en pensant que mon travail s'arrêterait là. Cela m'a donné le détachement et la liberté et la conscience que notre témoignage est valable lorsque nous sommes fidèles à l'Évangile jusqu'au bout dans une fidélité quotidienne. Pour l'instant, j'attends avec une grande paix et une liberté intérieure, prêt à rentrer dès que possible, dit-il en évoquant les moments tragiques de l'attaque. L'évêque du royaume de Swatini, basé à Manzini, Mgr José Luis Girard de Ponce de Léon, a annoncé une rencontre diocésaine dans le but de réfléchir à la fois sur l'agitation actuelle dans le royaume et sur l'impact continu qu'a le Covid-19 sur la vie et le travail pastoral. Alors que nous traversons la troisième vague avec un peu plus de 2% de la population vaccinée, il semble évident que les vagues régulières, les blocages partiels ou totaux et autres restrictions continueront de nous affecter. Il ne s'agit donc plus d'attendre la fin, mais de discerner comment être l'Église au milieu d'une pandémie, a-t-il déclaré.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le gouvernement de la Tanzanie a annoncé jeudi soir qu'il s'équipait en vue de démarrer prochainement sa campagne de vaccination contre le coronavirus dans un pays qui était covidosceptique il y a encore quelques mois. La ministre de la Santé, Dorothy Gwajima, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement interdisait également tous les rassemblements non nécessaires afin de prévenir la propagation du Covid. Madame Gwajima a déclaré que les vaccins seraient prochainement disponibles gratuitement pour les volontaires, sans toutefois donner de date. « J'appelle tous les citoyens à se préparer pour la vaccination », a-t-elle dit. La nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a pris le contre-pied de son prédécesseur, estimant qu'il n'est pas bon d'ignorer le Covid-19. Elle a créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement à ce sujet. « Cette troisième vague est déjà dans le pays et il n'y a rien à cacher », a affirmé Madame Hassan en juillet, appelant les Tanzaniens à respecter les mesures sanitaires comme le port de masque et le lavage des mains. Jeudi, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que la Tanzanie, l'Érythrée et les Burundi étaient les seuls pays sur le continent à ne pas avoir commencé des campagnes de vaccination contre le Covid. Mais la Tanzanie, qui compte 58 millions d'habitants, a récemment entamé des démarches pour rejoindre l'initiative COVAX ainsi qu'un programme d'acquisition de vaccins de l'Union africaine. On peut maintenant dire que nous avons vu un changement significatif de la position de la Tanzanie, a déclaré John Nkegasang, le directeur d'Africa CDC. 16 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées, ADF en sigle. L'embuscade a eu lieu jeudi soir sur l'axe Maïmoya et Chanichani où chaque jeudi s'organise un marché. Nous avons 16 corps à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, a déclaré Nicolas Kikuku, bourgmestre d'Oicha. Les victimes rentraient du marché, il s'agit de 15 adultes, 6 femmes et 9 hommes ainsi qu'un enfant, tous tués par balle, a indiqué le docteur Jérôme Mouniambete, directeur de l'hôpital général d'Oicha. En ce moment, nous tentons de stabiliser 9 blessés, a-t-il ajouté. À quoi sert donc cet état de siège lorsqu'on continue d'enregistrer des massacres? Nous n'avons pas encore vu des mesures qui démontrent que nous sommes en état de siège. Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de forces supplémentaires ou des opérations, a dénoncé Lewis Saliboko, un responsable de la société civile d'Oicha. Par ailleurs, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a appelé appelé jeudi le gouvernement à annuler une décision autorisant le braconnage en République démocratique du Congo et compromettant ses efforts pour protéger les espèces en danger. Une décision conjointe des ministres congolais de l'Environnement et des Finances de juillet 2020 avait autorisé l'abattage, la détention et la vente d'espèces protégées en République démocratique du Congo contre le paiement d'une taxe, libéralisant de fait le braconnage dans le pays. Une chape de plomb s'est abattue sur l'opposition au Bénin, où les arrestations durant la présidentielle du 11 avril ont instillé un climat de peur. D'abord celle de Joël Aïvo, un professeur de droit arrêté quelques jours après le vote. L'opposant dont le procès s'est ouvert le 15 juillet est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et celle de Rekia Madougou, une ancienne garde des Sceaux accusée d'association de malfaiteurs et de terrorisme, arrêtée quelques semaines avant le scrutin. Monsieur Aïvo et Madame Madougou sont les cas les plus emblématiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Des jeunes de l'opposition qui se sont retrouvés en prison avant et après l'élection, affirme le responsable d'une association en France qui vient en aide aux opposants arrêtés. Au moins une centaine selon lui, mais ce nombre n'était pas vérifiable et les autorités béninoises ne l'ont pas confirmé.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
13 civils ont été tués mercredi en Centrafrique à 300 km au nord de la capitale Bangui, a affirmé jeudi dans un communiqué l'ONU qui n'a pas précisé les circonstances de l'attaque ni l'identité des assaillants. Une patrouille de la mission des Nations Unies en République Centrafricaine MINUSCA a confirmé la découverte de 13 corps sans vie à Bangboto, à 300 km au nord de Bangui selon le communiqué. Les morts sont tous des civils, a précisé le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, porte-parole de la MINUSCA. L'ONU a appelé à enquêter sur les circonstances de la mort de 13 civils. La MINUSCA contribuera à faire toute la lumière sur ces malheureux incidents et se tient prête à soutenir le gouvernement pour que les auteurs présumés de ces crimes odieux soient identifiés. L'ONU sollicite la coopération du gouvernement à cet effet, conclut le communiqué. Le gouvernement a accusé de son côté les éléments de la coalition de patriotes pour le changement créée en décembre 2020 pour tenter de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra d'être à l'origine de l'attaque. Au moins 20 civils ont été tués et des dizaines de milliers ont été déplacés dans de violents combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales dans la région éthiopienne d'Afar, limitrophe du Tigré, a indiqué jeudi un responsable éthiopien. Les combats en région Afar révèlent le risque d'une propagation de la guerre au Tigré engagée par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed contre les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré qui a fait en 8 mois des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, selon les Nations Unies. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, emprisonné pour outrage depuis le 8 juillet, a pu se rendre aux obsèques de son frère jeudi grâce à une permission exceptionnelle de sortie, a-t-on appris auprès d'une source gouvernementale. En tant que détenu à courte peine et classé à faible risque, la demande de congé pour raison familiale présentée par M. Zuma, 79 ans, a été approuvée, avait annoncé les services pénitentiaires. À présent, place à Françoise Niamien pour le magazine sur l'actualité internationale de la semaine.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se sont ouverts vendredi au stade olympique. Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés d'un an en raison de la pandémie, ont été déclarés officiellement ouverts au cours d'une cérémonie par l'empereur du Japon Naruhito avant que la vasque olympique ne s'enflamme pour briller jusqu'au 8 août et la clôture des Jeux. Les inondations dévastatrices qui frappent le centre de la Chine ont fait au moins 51 morts, selon un bilan revu à la hausse vendredi par les autorités. Dans un autre registre, arrogance et manque de respect, la Chine a critiqué vivement jeudi la demande de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de poursuivre sur son sol l'enquête sur les origines de la COVID-19, s'attirant une réplique véhémente de Washington sur son attitude jugée irresponsable. En Inde, un responsable local a annoncé vendredi la mort d'au moins 36 personnes. Elles ont péri jeudi dans des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson dans l'ouest du pays, où des dizaines d'autres sont portées disparues. Au moins 35 à 40 personnes restaient encore prises au piège. Des opérations de secours ont été lancées après le naufrage au large de la Turquie d'une embarcation de migrants avec 45 personnes à bord, a annoncé vendredi le ministère turc de la Défense. Une dizaine de migrants étaient toujours portés disparus vendredi matin au large de la Crète en Grèce au lendemain du naufrage de leur bateau, selon les gardes côtes grecs qui poursuivaient leur recherche malgré des vents violents. En France, l'Assemblée nationale a adopté vendredi un nouveau projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension controversée du pass sanitaire dans le pays et l'obligation vaccinale pour les soignants au bout d'une nuit blanche marquée par des âpres débats. Un journaliste mexicain, Ricardo López, a été assassiné jeudi dans le nord du Mexique, considéré comme l'un des plus dangereux pour la presse, ont annoncé les autorités locales. Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété jeudi l'état d'urgence dans les prisons du pays afin de rétablir l'ordre après des émeutes qui ont fait au moins 22 morts et une soixantaine de blessés, selon un dernier bilan officiel. Les États-Unis d'Amérique ont imposé jeudi des sanctions financières au ministre cubain de la Défense, Alvaro López Miera, et à une unité spéciale du ministère de l'Intérieur pour la répression des récentes manifestations pacifique et pro-démocratie à Cuba. New York et plusieurs régions de l'Est des États-Unis d'Amérique et du Canada ont été mardi couvertes d'un voile gris au goût de fumée causé par des incendies dans l'Ouest des États-Unis et au Canada. En Irak, une trentaine de personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique sur un marché populaire d'une banlieue chiite de Bagdad à la veille de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le gouvernement d'Angela Merkel a approuvé mercredi une première aide d'urgence pour soulager les sinistrés des inondations meurtrières de l'ouest de l'Allemagne, où la reconstruction s'annonce longue et se chiffre en milliards d'euros. La grève de la faim observée depuis 2 mois à Bruxelles par quelques 450 sans-papiers exigeant un titre de séjour avec accès au marché du travail est provisoirement suspendue, a annoncé mercredi leur comité de soutien après des discussions avec le gouvernement. Au moins 2 personnes ont été tuées mardi, dont un policier au Khuzestan, selon des médias iraniens, portant à 3 le nombre de personnes tuées dans un contexte de tension dans cette province du sud-ouest de la République islamique, frappée par une pénurie d'eau. En Irak, une trentaine de personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique sur un marché populaire d'une banlieue chiite de Bagdad à la veille de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Les organisations de défense des droits humains, des médias, l'Union européenne et des gouvernements s'indignaient lundi des révélations sur l'espionnage à l'échelle mondiale de militants et de journalistes au moyen du logiciel Pegasus conçu par l'entreprise israélienne Enzo Group. Au moins 430 migrants ont traversé la Manche lundi pour se rendre au Royaume-Uni, selon le ministère britannique de l'Intérieur, un nouveau record journalier qui intervient alors que le Parlement examine le projet de durcissement du système d'asile britannique. L'Afghanistan a rappelé dimanche à son ambassadeur et d'autres hauts diplomates en poste à Islamabad à la suite de l'enlèvement de la fille de son représentant au Pakistan et tant que n'ont pas disparu les menaces sur leur sécurité. Le président brésilien Jair Bolsonaro a quitté dimanche l'hôpital de Sao Paulo où il avait été soigné 4 jours durant pour une occlusion intestinale.
Place à la rubrique sur les migrations avec Marie-Josée Mwando Boisboileau.
Commençons notre rubrique par la déclaration de l'Organisation internationale de la migration qui appelle les États à prendre des mesures urgentes face à une forte hausse des décès de migrants rejoignant l'Europe par la mer. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année, a indiqué mercredi l'OIM dans un nouveau rapport. Au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. En 2020, 513 avaient péri au cours de la même période et 674 en 2019. Les organisations civiles de recherche et de sauvetage ont continué à se heurter à des obstacles importants, la majorité de leurs bateaux étant bloqués dans les ports européens en raison de saisies administratives et de procédures pénales et administratives en cours contre les membres d'équipage, constate le rapport. L'Organisation internationale de la migration note également que l'augmentation des décès intervient à un moment où les interceptions d'embarcations transportant des migrants au large des côtes nord-africaines sont à hausse. Un groupe de 119 migrants subsahariens en situation irrégulière a réussi lundi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla après avoir franchi la triple clôture métallique la séparant du Maroc, selon les autorités espagnoles. Au total, environ 200 migrants ont essayé de forcer le passage depuis le Maroc vers 4h30, soit 2h30 GMT, a indiqué la préfecture de Melilla. La garde civile espagnole et la police marocaine se sont rapidement mobilisés pour essayer de les empêcher, mais 119 migrants, tous des hommes, ont réussi à entrer à Melilla. L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée qui a recueilli 572 migrants en Méditerranée, a réclamé à l'Union européenne mercredi un port sûr pour les débarquer le plus rapidement possible. Nous en sommes à notre quatrième demande formulée auprès des autorités maritimes compétentes. S'est impatientée mercredi l'ONG appelant les pays européens à coordonner d'urgence le débarquement. À bord se trouvent 572 personnes sauvées en 6 opérations de sauvetage. Il y a des femmes, des enfants, un bébé de 4 mois et toutes ces personnes ont besoin de débarquer dans un lieu sûr. Le plus rapidement possible, explique l'ONG. À quelques minutes seulement du rivage de l'île grecque de Kos, Chinda, émigrant camerounais, raconte avoir été intercepté avec 30 demandeurs d'asile, puis refoulé vers la Turquie par des gardes-côtes grecs armés lors d'un nouvel épisode de refoulement illégaux dont la Grèce est accusée. Dans un communiqué du 11 juin, les gardes-côtes turcs confirment avoir récupéré les 31 migrants la veille vers 12h55. Depuis l'année dernière, médias et ONG publient des enquêtes sur les renvois forcés de migrants présents sur le territoire grec ou dans les eaux grecques vers la Turquie. Le gouvernement grec ne cesse de démentir ces incidents et accuse la Turquie de ne pas empêcher le départ des migrants depuis ses côtes occidentales proches des îles grecques. L'Europe doit se doter en urgence d'un mécanisme de répartition automatique, prévisible et solidaire des migrants secourus en Méditerranée pour leur offrir les gages des meilleurs accueils, juge Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ce mécanisme est important parce que l'accueil doit être organisé pour qu'il y ait un enregistrement rapide des personnes une fois qu'elles débarquent en Europe. Certes, ces personnes peuvent déposer une demande d'asile en Italie, le pays de débarquement, mais il ne faudrait pas que ce soit la seule responsabilité des pays qui sont frontaliers de la Méditerranée du simple fait de leur emplacement géographique. C'est pour ça qu'il faut un partage de la solidarité et de responsabilité par différents pays européens pour protéger les personnes qui fuient les guerres, les persécutions et qui ont besoin de protection internationale.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, ici s'achève cette édition de notre programme que vous avez suivi en compagnie de Donatien Nyungu. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi. Tu es mon roi, oh quelle joie d'être toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, oh, oh.